je crois qu'il faut bien se mettre en tête qu'il n'y a pas de leçon de l'histoire. Chaque situation d'une nation, chaque situation d'un peuple est singulière et doit être résolue par ce peuple même. Nous ne pouvons pas espérer pouvoir tirer du passé quelque chose qui pourrait être appliqué aujourd'hui. Aussi bien, si l'on se met à réfléchir sur la manière dont les Grecs ont envisagé et pratiqué la démocratie, je crois qu'il faut emprunter leur direction d'esprit, leur thème de pensée, et non pas du tout les solutions elles-mêmes. C'est plutôt leur mentalité d'ensemble à traiter le problème de la politique et du politique qu'il s'agit de faire. C'est à cela qu'il faut essayer de se dévouer avec précision et non pas à essayer de trouver ce qui est encore vivant des Grecs parmi nous. Donc, il n'y aura pas, je ne prétendrai pas du tout en parlant des Grecs, donner des leçons politiques. Je crois que ce qui atteint nos États aujourd'hui, et quels que soient ces États, de quelque régime qu'ils se réclament, économique ou politique, qu'ils soient entre guillemets libéraux ou autoritaires entre guillemets, qu'ils soient socialistes entre guillemets ou capitalistes entre guillemets, ce qui est frappant dans tous les États aujourd'hui, dans tous les régimes existants, comme disait Platon, c'est qu'on pense que la perfection ou le bonheur, ou la réussite, ou la satisfaction, sont liés à l'ordre. Et pourquoi précisément ne pas penser qu'un peu de désordre est nécessaire? C'est la question qu'il faut poser à partir des Grecs, car je crois que là, les Grecs avaient inventé des trucs, je dirais des solutions que je vais essayer d'évoquer, à la fois en m'appuyant sur ce que nous savons de l'histoire de la cité grecque au 5e et au 4e siècle, et sur les textes de ceux qui ont réfléchi, alors bien sûr les philosophes, mais essayons de réfléchir en nous mettant dans la mentalité des Grecs de l'époque pour comprendre ce qu'a d'original la démocratie. Qu'est-ce que les Athéniens, dans cette affaire-là, ont inventé? Alors, et pour bien comprendre ce qui s'est passé à Athènes, il faut voir, en fait, un changement sémantique qu'introduit la politique athénienne à la fin du VIe siècle. N'oublions pas que les siècles, il faut les compter à l'envers. Hein, le VIe siècle, c'est la période où s'élabore le nouveau régime athénien. Étymologiquement, la démocratie, c'est le pouvoir du petit peuple. Et ce pouvoir démocratique est opposé au pouvoir des nobles ou au pouvoir des militaires, les deux souvent se confondent, ou au pouvoir des propriétaires fonciers, qui sont les oligarchies, hein, et les trois se confondant aussi, hein, puisque souvent les nobles, les militaires et les gros propriétaires fonciers se recoupant. La démocratie est traditionnellement tenue pour un pouvoir tumultueux. Hein, c'est un pouvoir tumultueux, c'est un pouvoir peu solide parce qu'il est l'apanage de gens qui ne s'y connaissent guère. Or, précisément, ce que les Athéniens ont inventé, c'est un changement de sens du mot démocratie. Hein. C'est la fameuse révolution démocratique qui s'est produite aux environs de l'année 610 et qui a été quelque chose de décisif. Thucydide, lorsqu'il veut parler de ce changement et lorsqu'il ponctue les résultats de ce changement, c'est-à-dire le régime institué par Périclès, déclare que c'est la démocratie en confiance avec l'intelligence. Que veut dire cette formule un peu énigmatique? D'autant plus énigmatique que l'on pense que le mot « intelligence » ici, c'est en grec classique « nous » et que « nous », ça veut dire aussi « esprit » ou « principe d'intelligibilité ». Qu'est-ce que cela veut dire? Ben, je crois, si on essaie de penser les choses très simplement, très concrètement, cela veut dire que cette politéia, cette constitution, a mis au point des dispositifs de fonctionnement de la collectivité telle que tous les citoyens participent effectivement à la vie de la cité. C'est-à-dire qu'il n'y a plus ce que nous pourrions appeler, en faisant un abus de langage, de primauté politique en fonction de l'appartenance à une classe. La définition de la démocratie grecque, c'est cette idée que le pouvoir n'appartient par nature à personne. Le pouvoir, disent les Grecs, est en meso, ce qui veut dire au milieu. Le pouvoir est au milieu de tous, et personne ne le possède de manière durable. Et du même coup, les Grecs athéniens ont inventé ceci qui est l'idée que la cité n'est pas la propriété de quelqu'un, mais que c'est une réalité abstraite, c'est un champ, c'est un cadre. En témoignage, on peut évoquer ici la grande réforme démocratique auquel s'attache le nom de Clisthène. En fait, tout l'effort de Clisthène et de la démocratie athénienne, marqué par les noms d'Éphialtès puis de Périclès, tout l'effort de la démocratie athénienne sera de faire tomber tout écran ou tout obstacle qui puisse se dresser entre le pouvoir central, jugé indispensable pour des affaires à la fois militaires et d'ordonnances judiciaires, par exemple, et l'individu. Que l'individu soit libéré de la situation dans laquelle il est inséré, dans la situation économique ou familiale dans laquelle il est inséré. C'est en ce sens, si vous voulez, que Aristote, au début de la politique, définit la cité comme étant une communauté tout à fait particulière. Aristote nous dit, eh bien voilà, il y a pour les êtres vivants diverses manières de se rassembler. La première manière de se rassembler, c'est se rassembler par le sang. C'est la famille, en grec, le génos. Cela, les hommes le partagent avec les animaux. Il y a des familles animales. Il y a une autre manière de se rassembler, c'est de se rassembler par la communauté d'intérêts que crée la proximité, que crée le voisinage. Cela, les hommes le partagent avec d'autres animaux. Nous connaissons des animaux qui vivent en harde ou qui constituent ensemble des expéditions guerrières, enfin des expéditions pour trouver de la nourriture. Et ce ne sont pas là, dit Aristote, des organisations proprement humaines. La seule organisation proprement humaine, c'est la cité, parce que la cité a pour but non pas simplement le vivre, la survie, nous dirions aujourd'hui, mais le eudaine, c'est très difficile à traduire en français ça, parce que la traduction directe c'est bien vivre, et ici on pense au bon vivant. Il ne s'agit pas de bien vivre, mais de vivre bien, c'est-à-dire de vivre une vie qui soit digne d'un homme. Ce qui signifie aussi, entre parenthèses, car les Grecs étaient heureusement amoureux du bonheur, bien vivre aussi. Hein. C'est-à-dire, ça n'excluait pas du tout le bonheur matériel, le bonheur empirique, comme nous disons. Hein. Mais ça impliquait quelque chose de plus. Bref, désormais, l'activité politique se développe dans un espace abstrait qui est défini précisément par la fonction du citoyen, le citoyen qui est un homme, eh bien, dont les traits principaux, c'est de parler et de se battre, et de reproduire, bien sûr, d'avoir des enfants, hein, de parler et de se battre. De se battre contre les ennemis pour éviter d'être transformé en esclave, tout simplement. Voilà le sens profond de cette réforme de Clisthène, et elle est, à mon avis, extrêmement importante. Bien, ça, c'est, si vous voulez, le premier point. Donc, existence d'un pouvoir central, mais ce pouvoir central est fait de tous les citoyens. Alors, je n'insiste pas parce que je n'ai pas le temps sur aussi sur tous les dispositifs qui ont été prises par la démocratie athénienne pour éviter que des décisions folles soient prises. Ça, je précise bien que ça n'a pas empêché l'Assemblée populaire à Athènes de commettre quelques bévues monumentales. C'est sûr. Au cours de sa brève histoire, car je rappelle que le siècle de Périclès, ce que je décris là, ça a malheureusement duré seulement 30 ans. Hein. C'est un tout petit siècle. Mais ce qui nous importe, c'est que ça ait eu lieu. C'est la preuve que ça peut avoir lieu. Bon. Alors j'en viens maintenant à l'essentiel. C'est le mode de pouvoir exécutif inventé par les Athéniens qui me paraît très important. C'est le fait que il n'y a pas de fonctionnaires, il n'y a jamais que des magistrats. Autrement dit, toute charge, qu'il s'agisse de charges militaires, de charges religieuses, de charges économiques, de charges techniques, toute charge est occupée par un collège de 10 membres. Donc c'est le principe collégial. Ces membres sont soit élus par l'Assemblée populaire lorsqu'il s'agit de charges techniques, soit pour les charges qui n'impliquent pas de compétences techniques, soit par tirage au sort. Ces charges sont révocables, sont automatiquement révoquées au bout d'un an. La plupart d'entre elles ne sont pas renouvelables. Il faut des décrets spéciaux pour qu'un citoyen puisse être pendant plusieurs années dans la même fonction. Le seul qui en ait bénéficié, d'ailleurs, à ma connaissance, ça a été Périclès, qui est resté stratégos, autocrator, stratège, chef d'état-major général, comme on pourrait dire maintenant, pendant une dizaine d'années. Ça ne l'empêchait pas d'ailleurs d'avoir des ennuis politiques pendant la même période. Mais une disposition, je voudrais insister, je ne veux pas insister là-dessus, mais il y a une disposition qui me paraît très importante. Tout citoyen a le droit, à la sortie de charge d'un magistrat, de le faire convoquer devant le tribunal pour mauvaise gestion, à titre individuel. Un citoyen considérant que tel magistrat n'a pas accompli correctement sa charge, l'accuse de l'avoir mal accompli. Et il est convoqué, le magistrat sortant est convoqué devant le tribunal et doit rendre compte individuellement de son action. Et tout le monde y passe. Je veux dire par là qu'il y a eu non seulement des grands philosophes comme Anaxagore ou Socrate, qui ont été convoqués parce qu'ils s'étaient montrés impies, hein, selon la terminologie d'alors, mais c'est arrivé aussi à Périclès. Périclès, tout stratégos autocrator qu'il était, par deux fois a dû se présenter devant le tribunal parce qu'il ne pouvait pas rendre compte de la gestion des fonds qui lui avaient été confiés. On lui a accusé d'avoir permis à Phidias, son copain Phidias, le sculpteur, d'avoir volé de l'or, et par deux fois, Périclès a été condamné, et il a dû rembourser. Moi, je trouve que c'est une disposition fantastique, ça. Je me mets à rêver. Hein ? C'est quand même étonnant, ça. Et essayons, enfin, je veux pas rêver trop longtemps, mais transposons ça dans le monde moderne. Hein ? Bref, la politique a pour but de remédier à l'inégalité de la société par tous des dispositifs qui permettent à chacun d'être ce qu'il est au mieux qu'il peut, ce qu'on appelle peut-être l'autarkeia dans la Grèce classique, la libre disposition de soi. C'est sur ça qu'il faut réfléchir, et c'est cela que nous raconte Aristote. Moi, personnellement, et c'est pourquoi j'avais envie de parler de ce sujet, dans la cité grecque, j'aperçois autre chose de tout à fait différent, qui est l'existence d'un pouvoir central qui ne s'accompagne pas nécessairement d'une technique d'assujettissement à la loi, parce que dans la Grèce classique, il n'y a pas de technobureaucratie assujettissante, parce qu'il n'y a pas de loi réputée souveraine. Il y a une organisation du pouvoir telle que ce pouvoir est l'affaire réellement de tous. Je crois qu'on ne peut pas trouver de recette chez les Grecs, mais on peut trouver cette idée que la politique, ce n'est pas l'art, ou la technique plus exactement, la politique, ce n'est pas la technique de la domination, c'est l'art de la liberté.